Et là, on est en Galates 3, verset 23.
And we're in Galatians 3, verse 23.
On s'était arrêté la semaine dernière au verset 22. On va faire de verset 23 jusqu'à Galates 4, verset 7.
And we're in Galatians 3, 23 to Galatians 4, verse 7.
Oui. OK. Et on va lire ensemble.
And let's read the whole passage together. Oui. In French, and please follow along in whatever language you're reading.
Exactement. Donc, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous, conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. La parole du Seigneur. Alors, pour rester dans le fil de ce qu'on a déjà mis en place comme enseignement.
So to stay in the projection of what we've been learning.
Je vais commencer toujours avec la même chose que Mike. Hein.
start the same way that Mike's been starting.
Et ça me permet aussi de me poser la question quand je prépare l'enseignement.
And I ask myself the same question as I prepare the teaching.
Si je devais expliquer ce passage de Galates à mes enfants, je dirais.
If I had to teach this passage to my children, how would I?
Imaginez qu'on vous promette un trésor précieux.
Imagine someone promises you a precious treasure.
Quelque chose d'incroyable, comme un coffre rempli d'or et de diamants.
Like a pirate chest that's filled with diamonds and gold.
Mais on vous dise que c'est pas encore le moment que vous le preniez.
But then they tell you what it's there, but it's not yet time for you to take it.
C'est ce que nous montre le texte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il nous montre aussi que, ça y est, à un moment donné, le trésor nous est donné quand même. Mais alors, dans cette lettre de Galates, Paul, en fait, nous parle clairement d'un trésor qui est encore plus grand que l'or et les diamants.
And Paul shows us in this text that the treasure is so much greater than gold and diamonds.
La grâce de Dieu et notre adoption comme ses propres enfants, en fait.
And adoption is like being taken in like your own children.
Voilà. Et qui ne donne pas tout pour ses enfants?
And who would not give everything for their own children?
Et Dieu a bien tout entre ses mains, non?
And God holds everything in his hand.
Alors, avant la venue de Christ,
so before the coming of Christ,
la loi, elle agissait plutôt comme un tuteur, un guide.
The law was like a tutor, like a guide.
Un genre de protecteur qui guidait le peuple et qui en même temps lui montrait la sainteté de Dieu, en fait.
That showed and guided the people the holiness of God.
Mais la loi nous montrait aussi notre incapacité à atteindre cette sainteté par nos propres forces.
But it also showed holiness, or we tried to attain holiness by our own strength.
Posez-vous la question, qui n'a jamais convoité quoi que ce soit, qui n'a jamais volé quoi que ce soit, qui n'a jamais menti?
So who never stole something, who never wanted something that they shouldn't have, so who never lied?
Donc si vous avez mis une seule croix dans une de ces réponses, eh ben c'est que vous êtes aussi concerné.
So if you never put a check on one of those things, you're concerned.
Mais Dieu, dans son amour fidèle, comme on a vu la semaine dernière, il a envoyé Jésus-Christ pour accomplir une merveilleuse promesse.
But God, in his great and faithful love, as we saw last week, he sent his promise.
Voilà, il a envoyé Jésus-Christ pour accomplir cette promesse.
He sent Jesus Christ to accomplish his promise.
Et en Jésus-Christ, en fait, on n'est pas simplement protégé par des règles, comme c'est le cas dans la loi.
In Jesus Christ, we aren't just accomplishing rules, as it says.
Ouais, on n'est pas juste protégé par des règles, mais on est adopté.
Voilà. We aren't just we're adopted.
Voilà, comme des enfants et héritiers du royaume.
As children are heirs of the kingdom.
Et donc ce passage en fait nous montre que Dieu regarde au-delà de nos apparences.
And God sees beyond appearances.
Et au-delà de nos différences extérieures, des choses que nos yeux voient.
Beyond exterior appearances, that's what God sees.
Et donc, en fait, ce qui compte pour Dieu, c'est votre cœur.
And what counts for God is our hearts.
Et le fait qu'on lui appartienne, qu'on soit dans à ses côtés, en fait.
And the fact that we belong to Him, that we are by His side.
Et c'est ce qu'on va explorer en trois étapes aujourd'hui.
And that's what we'll look at in three parts today.
Voilà, la première, c'est la loi. Comme un guide pour préparer notre cœur à la grâce.
The law is a guide to prepare our hearts for grace.
Et le deuxième point, c'est notre. Pardon. C'est vrai que c'est pas tout écrit au même endroit. Désolé. C'est écrit après, mais tu peux aller plus loin, un peu plus loin, encore, un peu plus loin. Merci. Donc notre nouvelle identité en Christ.
And the second is our new identity in Christ,
qui nous unit en une seule famille, l'Église, et au-delà de toutes les différences.
Which unites us in one family, which is the church, which is beyond any type of difference.
Voilà. Et la troisième, il faut que tu ailles un peu plus loin encore.
And the third,
c'est la transformation de notre relation avec Dieu.
Is the transformation of our relationship with God.
Quand on est passé de l'esclavage du péché à la liberté en tant qu'enfant et héritier.
Which from slavery, from sin to freedom as children and heirs of God.
Alors démarrons par la loi, un guide pour préparer à la grâce.
So let's start from with could you repeat that?
Un guide pour nous préparer à la grâce.
A guide to prepare us for grace.
Et donc, dans les premiers passages, dans les premiers versets de Galates 3, vers 23 à 25,
and so in the first verses, in Galatians 3, 23 to 25,
voilà, on voit que, avant que Christ ne vienne, la loi, elle avait cet objectif de nous faire comprendre à quel point Dieu est saint et parfait et combien nous, on est loin de cette image de perfection.
We see how God is holy and perfect and how far we are from that perfection.
Et la loi en fait posait des règles pour que le peuple ait un cadre.
And we see that the law provided a frame.
Mais c'est pas la loi qui va changer les cœurs. On est d'accord.
But it's not the law that changes hearts.
Et c'est la même chose pour la loi de Dieu. Elle ne transformait pas les cœurs des gens et elle n'offrait pas la vie éternelle non plus.
And we see that it doesn't provide eternal life either.
Et donc, c'était très limité quand même.
It's very limited.
Alors, Paul explique dans Romains 3, verset 20,
and we see, as Paul explains in Romans 3, verse 20,
que nul ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché.
It says, therefore, the deeds of... By the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is knowledge of sin.
Et en fait, on voit que la loi, elle agit plutôt comme un miroir, en fait, qui nous montre ce qui ne va pas chez nous, nos faiblesses, nos faiblesses.
And so we see that the law is sort of a mirror, which shows us our weaknesses.
Mais elle ne peut pas nous changer.
But it can't change us.
Elle est là pour nous guider, donc c'est ce que Paul dit dans le message.
It's there to guide us.
Pour nous encadrer et nous montrer nos limites.
To frame us and to show us our limits.
Alors, regardez bien dans Galates 3, verset 24.
And if we look at Galatians 3, verse 24.
La loi a été notre surveillant, notre tuteur, pour nous conduire à Christ.
It says, therefore, the law was our tutor to bring us to Christ.
En fait, elle nous montrait qu'on avait un besoin d'un sauveur.
And it shows us that we need a savior.
Qui justement pouvait aller jusqu'à nous transformer.
Which can lead us to transform us.
Et j'aime bien cette histoire du fils prodigue, vous savez.
And I love the story of the prodigal son.
C'est ce fils qui était parti très loin de sa famille, de son père, pour vivre sa propre vie comme il l'entendait.
And the son that went so far from his father to live the life that he wanted to live.
Et il a fini par tout perdre et il a pris conscience de sa faute à un moment donné.
And he ended up losing everything and he recognized his error.
Imaginez dans quel état il était quand il devait revenir vers sa famille.
But imagine the state he was in when he went back to his family.
Il était tellement mal qu'il avait même décidé de revenir dans un état de serviteur juste pour servir et aller nourrir les cochons.
And he was in such a terrible state that he thought, I'll just go back to be a servant, to feed the pigs.
Mais à sa grande surprise, son père l'a accueilli à bras ouverts, avec de la joie, de l'amour, il a même fait une fête.
But to his surprise, his father had his arms open wide and he had a big party.
Il n'a pas eu la fête parce qu'il a mérité d'avoir la fête.
And he did not have this great feast because his son deserved the feast.
Juste parce que c'est son fils.
But it was uniquely because he was his son.
En fait, de la même manière, la loi nous montre nos faiblesses, mais nous montre aussi que l'amour de Dieu peut vraiment nous libérer et nous faire venir en tant que fils.
And the law shows us our weakness, but also that we are sons.
Et pour nous, en fait, aujourd'hui, si on se pose la question, combien d'entre nous ont encore l'impression de devoir mériter l'amour de Dieu par des actions qu'on fait au quotidien?
And if we look at this and we say, how many of us have earned the love of God through our actions?
Et ça, c'est le risque de suivre uniquement la loi, parce que ça nous montre effectivement les choses en apparence.
And that's the risk we take when we follow the law, because then we end up doing things just for the appearance of doing them.
Et c'est vrai que Jésus l'a rappelé dans Matthieu 5, verset 20.
And Jesus reminds us in Matthew 5, verse 20.
Suivre la loi, c'est bien. C'est ce que faisaient les pharisiens, d'ailleurs.
Because following the law is good, is what the Pharisees did.
Et tous les pharisiens étaient, aux yeux de la loi, irréprochables.
And the Pharisees, before the law, they were irreproachable.
Alors c'est pour ça que Jésus a dû dire cette phrase.
And that's why Jesus had to say this phrase.
Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
For I say unto you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven.
Et en fait, les pharisiens, ils obéissaient à la loi d'une manière où on voyait surtout leurs actions. En fait, c'était l'extérieur pour que les yeux des autres voient ce qu'ils faisaient.
And the Pharisees followed the law in such a way so that everyone could see their actions.
Et Jésus a dû condamner ça pour dire que si vous n'êtes pas mieux que ça, vous ne pouvez pas accéder au royaume.
And Jesus had to condemn that in saying, if you're not better than that, you cannot go to heaven.
Donc on voit bien les limites de la loi.
And that's the limit of the law.
Parce que Christ veut qu'on vienne avec notre cœur.
Because Christ wants us to come with our heart.
Une vraie transformation qui va dépasser les apparences et qui va nous rendre vraiment libres, en fait.
This true transformation that will go far beyond appearances and will leave us truly free.
Mais quand on est dans ce questionnement que j'ai cité juste avant, il y en a un qui en profite pour essayer de nous accabler.
And when we're in this true moment of questioning, there's one that will affect us.
Et c'est vrai que quand on se dit, mais je n'ai pas assez fait pour plaire à Dieu, mes œuvres, mes actions, qu'est-ce que je peux faire de plus?
And when you think, what can I do to please God? What can I do more?
C'est souvent là que Satan attaque pour vous faire croire que vous n'êtes pas assez bon, que regardez, vous faites mal, vous n'êtes pas accordé à Dieu, et ça peut nous travailler. Attention à ça.
And so that can really hurt you because you're thinking that you're not really enough.
Mais cette voix-là, c'est un mensonge.
But this, because this voice is a lie.
Souvenez-vous, Christ est déjà mort pour nos péchés.
Remember this, that Christ already died for your sins.
Et ce sacrifice-là, parfait, il suffit à nous mettre en connexion directe avec Dieu.
And this perfect sacrifice that's already happened makes us right with God.
Et c'est pas que Dieu nous demande de la pénitence comme dans certains courants religieux autres qui disent oh oui, tu as fait une mauvaise action, eh ben fais 5 bonnes actions et ce sera compensé, tu vas équilibrer la balance.
And it's not like in other religions where you know, you do a bad action, so you must do 5 good actions in order to make the scale well balanced.
Et on voit bien que ça, c'est aussi une manière de faire plaisir aux yeux, à ce que nos yeux voient.
And that's a way to make things appear to be well balanced, to, so that our eyes can see that everything's fine.
Donc, Dieu qui s'intéresse à vous et qui s'intéresse à votre cœur, lui, il attend une repentance du cœur et non pas une pénitence des actions.
And so God, he's interested in your heart. He's interested that your heart would be repentant and not that you would be penitent.
Passons maintenant à la deuxième partie sur l'unité et l'identité en Christ. Donc les chapitres 26 à 29, les versets pardon, 26 à 29, Galates 3.
So now let's look at Galatians 3, 26 to 29 as we look at our identity in Christ.
Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Alors, cette partie, elle fait beaucoup polémique quand même dans certains courants religieux.
This part of scriptures causes a lot of issue in certain currents of the Christian world.
Je vais pas rentrer dans tous les conflits qui existent autour de cette partie-là.
And I'm not going to enter into all the conflict.
Mais on va surtout voir finalement l'angle. Alors je vais vous présenter l'angle que moi j'ai reçu hein, par rapport à cette préparation.
But I'm going to look into what I've received when I was preparing this study.
Donc en Jésus-Christ, quand on rentre, quand on vient à Jésus, on reçoit une nouvelle identité.
When we come to Christ, we receive a new identity.
Qui va dépasser toutes les distinctions humaines. Quand on dit distinction, c'est juif, pas juif, homme, femme, petit, grand, noir, blanc, etc.
When we come to Christ, we have a new identity which is greater than any other identity which we have, which is Jew, non-Jew, man, woman, white, black, anything else. Our identity in Christ is greater than that.
Et même dans cette partie qu'on étudie là, on voit que Dieu est toujours le même, hein, donc c'est Dieu s'intéresse toujours au cœur.
And when we look at this part, we see that God is all the same, and He is interested in our hearts.
Et ce qui compte pour Dieu, c'est justement notre cœur et notre appartenance à sa famille, en fait.
And we see that God cares about our hearts, and He cares about the family.
Et ce que nous révèle cette partie du passage, c'est que par la foi, nous devenons fils de Dieu, unis dans une seule famille, qui est l'Église.
And we see in this part that we become sons of God, united in the church.
Et ce passage précis, notamment, qui dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme », ce verset a suscité effectivement des débats et des divisions dans l'Église.
And especially at verse 28, which says « There's neither Jew nor Greek, neither slave nor free, neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus », this verse has caused so much conflict in the church.
Alors pourquoi les conflits?
Why?
Bah parce que certains comprennent ce passage-là d'une façon humaine.
Because people see this in a human way.
Et pas à la manière de Dieu.
Not in God's way.
Et en fait, si on le comprend de la manière humaine, on s'arrête aux choses visibles.
And so, and if we see it in a human way, then we stop with the visible.
Alors, Paul ne dit pas que ces différences-là n'existent plus. Hein.
And so Paul's not saying these things don't exist anymore.
Mais que ces différences, ces distinctions-là ne changent pas, en fait, elles ne vont pas définir notre valeur aux yeux de Dieu.
But that these things don't define our value in God's eyes.
Alors, à l'époque de Paul,
in Paul's time,
ce type de message-là était quand même assez révolutionnaire.
This type of perspective was absolutely revolutionary.
Parce que c'était une société qui était divisée par ethnie.
Because it was a society that was divided by ethnicity.
Bah, par statut social, par genre, etc.
By social status, by gender.
Alors il y avait les juifs et les grecs, les libres et les esclaves, les hommes et les femmes avaient chacun des droits et des rôles qui étaient définis.
And each person, based on these things, had their rights, their different statuses in society that they were allowed to do.
En fait, en disant ça, plus hommes, plus de femmes, plus esclaves, etc., Paul, en fait, proclamait que toutes ces distinctions-là, finalement, elles perdaient leur importance en Jésus-Christ, avec la nouvelle identité qu'on a.
And so Paul, well, he's saying this this phrase that there's neither slave nor free, neither male nor female, no Jew, no Greek, that all of these things, they lose their importance in Christ.
Et il dit que chaque croyant, en fait, peu importe son origine, son statut, était désormais accueilli comme un membre à part entière de la famille.
And he's saying that every single person, no matter where they come from or who they are in this world, they are all received with open arms in the family of Christ.
Unis par la même foi et la même grâce.
United by the same faith and the same grace.
Et j'aime bien ce passage dans 1 Samuel 16, verset 7.
And I love the passage in 1 Samuel 16, verse 7.
L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Dieu ne change pas, les amis.
And which says that for the Lord does not see as man sees, for the man looks at outward appearance, but the Lord looks at the heart, and the Lord does not change.
Si on regarde l'histoire de cette prostituée qui s'appelle Rahab,
and if we look at the story of the prostitute Rahab,
qui elle était dans un plan bien plus grand que ce qu'elle imaginait quand même.
And she was in this plan that was so much greater than she could ever have imagined.
Aux yeux des personnes de son époque, hein, cette prostituée, elle n'avait aucune importance.
And in the eyes of the people in her time, she had no importance.
Pourtant, Dieu la regardait avec amour. Elle l'a accueillie dans sa famille, puisque au point qu'elle est devenue même dans la lignée de Jésus, en fait.
But God saw her with importance, he saw her with value and with love, and he even grafted her into the lineage of Christ.
Quand Dieu la regardait, il ne voyait pas une femme qui était condamnée par son passé.
When God saw her, he did not see someone who was condemned by her past.
Non, Dieu la regardait en disant, ah, Rahab, ma fille bénie.
God saw her and said, "Oh, Rahab, my blessed daughter."
Alors que les gens autour d'elle ne disaient pas ça d'elle.
But the people around her certainly didn't say that about her.
Bon, si certains avaient pu même la jeter en prison, ils l'auraient fait.
And if people could have put her into prison, they would have.
Et c'est pour ça que gardons à l'esprit que Dieu dans tout ça, dans tout ce plan, en fait, il nous voit déjà comme ses enfants à l'avenir. Il voit pas juste le passé.
And, but God, he doesn't see just our past, but he also sees our future.
Et que nos vies en lui ne sont pas définies par nos erreurs, mais plus par son amour, en fait.
And our life in him are not defined by our errors, but by the hope we have in him,
and by his love. Et l'amour qu'il a. Yeah. Ouais. Et alors ça me fait penser à une équipe de sport.
And it makes me think of a sports team.
Où les joueurs en fait peuvent venir de milieux très différents. Ils portent tous le même maillot à la fin quand même.
And where the players can come from so many different places.
Voilà. Et ils portent le même maillot et ils jouent pour le même but.
But they all wear the same jersey and they all play for the same goal.
Et ce maillot là, ça symbolise leur unité. et leur engagement commun, en fait.
And their jersey symbolizes their commitment and their common goal.
Alors l'image, c'est qu'en Jésus-Christ, c'est comme si nous portions tous le maillot de la grâce.
And imagine we're all wearing the same jersey of grace.
Et ça dépasse en fait tout ce qui pourrait nous séparer, justement.
And it is greater than anything that could separate us.
Alors c'est vrai que je vous invite à vous poser la question.
And so I invite you to ask the question.
Est-ce que vous voyez les autres croyants qui font partie de la famille comme vraiment des membres de notre famille spirituelle? Parfois on est amené à les juger si on est honnête.
How do we see other members of our spiritual family, or are we judging them?
Est-ce qu'il y a des préjugés ou des barrières personnelles qui nous empêchent de voir les autres comme Dieu les voit?
Do we have prejudices or personal barriers that hinders us from seeing them as how God sees them?
Au-delà des apparences.
Beyond appearances.
En fait, ce qui est vraiment sécurisant pour nous.
What's truly
sécurisant.
Something that's safe for us.
C'est que Jésus nous appelle à aimer sans jugement.
Is it Jesus loves us without any judgment?
Il n'a pas dit d'ailleurs, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Did he not say, love one another as I have loved you?
Et à considérer chacun avec cette même grâce que Dieu nous donne.
And to consider each other with the same grace that I have given to you.
Des fois, on est plus voyant aveugle qu'avec nos yeux.
And oftentimes we're the blind leading the blind rather than looking through the eyes of God.
Et là, passons à la troisième partie.
And the third part.
De l'esclavage à la liberté d'enfant de Dieu.
Is from slavery to the freedom in God.
Alors, c'est vrai que dans cette partie, on va juste refaire un passage sur Galates 4, versets 1 à 7. C'est les quatre derniers.
Please follow along as Munir reads Galatians 4:1-7.
Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est venu, est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Et en fait, on voit que dans ce passage, en Christ, on passe de l'esclavage du péché, donc la loi nous révélait qu'on était pécheurs.
And in this passage we see that the law reveals that we're sinners.
Et donc on passe de cet esclavage du péché à la liberté d'enfant adopté et héritier de Dieu.
And we make this transition from slave to sin to freedom in Christ.
C'est pas juste un changement de statut où on a eu un visa.
And it's not just some transaction where we get a visa.
C'est une transformation profonde qui nous offre une relation intime et en continu avec Dieu.
It's this profound transformation that happens through a relationship with God.
Et fondée sur quelque chose qui est inébranlable.
Which is founded through something that's
unshakable.
Unshakable?
Yeah.
Okay.
Indépendant. Son amour fidèle.
His faithful love.
Et là, on voit que Dieu qui nous accueille dans sa famille comme des enfants.
And we see that God gathers us into his family as his children.
Pas parce qu'on a fait des choses qui le méritent.
And not because we've done something that he deserves.
Mais juste parce qu'il est gracieux et par sa grâce en fait.
But just because he's gracious and it's through his grace.
Et son amour qui change pas.
In his love, which does not change.
Alors, si on regarde dans la culture de l'époque, un enfant qui est héritier ne pouvait pas encore jouir de son héritage avant qu'il n'ait été adulte.
And if we look into the culture at the time, a child who is an heir cannot receive the benefits of being an heir until he's an adult.
Même si ses parents n'étaient plus là, bien sûr, hein, parce que l'héritage, normalement, on l'a que quand les parents sont plus là, si on est honnête.
Even if the children are, even if the parents are deceased, he still has to wait till he's an adult age.
Et même si l'héritage lui était promis, quoi qu'il arrive, il allait l'avoir.
Even if the inheritance is promised, and he knows he's going to get receive it.
Et de cette même manière-là, en Jésus-Christ, nous devenons héritiers du royaume.
And in the same way, we become heirs of the kingdom.
Et héritiers de toutes les bénédictions de Dieu.
And heirs of all of the blessings of God.
Et on est appelé à grandir dans cet amour de Dieu, dans cette liberté que Dieu nous donne.
And we're called to grow in this love of God and in the freedom that he gives us.
Et là, ce changement s'opère. Dieu, c'est plus juste le maître à qui on essaye de plaire, mais c'est le Père qu'on veut honorer.
And God becomes to us personally. Not just a master that we're trying to please, but a father that we desire to honor.
Alors, dans Romains 8, chapitre, enfin, versets 15 et 16,
and in Romans 8, verses 15 and 16,
il est écrit, « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. »
It says, « But you have received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. »
En fait, c'est ce mot « Abba », ça exprime la tendresse et l'intimité, en fait, d'un enfant vis-à-vis de son père.
And the word « Abba » expresses the tenderness of father.
C'est comme si, au lieu de dire « père » en permanence, on disait « papa ».
Instead of saying « father », constantly saying father, you're saying papa or daddy.
Daddy. Ouais. Et donc par cette adoption finalement, on a la liberté de s'approcher de Dieu en toute confiance parce qu'on parle à notre papa.
And we can always draw near to God because we're talking to our dad.
Et qui nous aimera quoi qu'il arrive, non pas parce qu'on le mérite ou pas parce que on a fait des choses pour ça, mais parce qu'il est fidèle en fait.
And we receive from him not because we deserve it, but because he's faithful.
Mais c'est pas un amour qui est fidèle et qui on reçoit et on s'arrête là.
And can you repeat that?
C'est pas un amour unilatéral.
Oh, it's not a unilateral love.
Mais c'est un amour qui nous appelle aussi à répondre.
But it's a love that calls us to respond.
Ok, et en tant qu'enfant, en fait, de Dieu, nous sommes appelés à refléter cet amour-là d'une manière dans nos vies au quotidien, en fait, finalement.
And it's a love that we're called to reflect in our daily life.
Mais à la manière de Dieu. Et j'aime bien dans effectivement, Éphésiens 5, verset, juste le premier verset.
And I love in Ephesians 5, the first verse.
Paul qui nous exhorte en disant « Soyez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. »
Where it says « Therefore be imitators of God as dear children. »
En fait, ça signifie que de la même manière que Dieu nous témoigne son amour inconditionnel, parfois on aura à transmettre cet amour inconditionnel aussi autour de nous.
Where it says that it expresses that as God is expressing his great love to us, we should be expressing his great love to those around us.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer aussi et pardonner aussi autour de nous.
Which means love around those around us and forgive those around us.
Puissions-nous le faire avec la même fidélité que Dieu,
hein? And to do that with the same faithfulness as God.
Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous d'être dans cette liberté, liberté d'être aimé et adopté par Dieu. Comment ça change aussi notre façon de prier, aussi notre façon d'être connecté au Seigneur? Alors, c'est bien de savoir qu'on est enfant héritier.
It's good to know that we're children who are heirs.
Mais est-ce qu'on se limite à la connaissance ou à l'action qui va avec?
And to know how that goes with the, links to our knowledge and with it.
Oui, c'est plus ou l'action qui va avec.
Oh, and the actions that go with.
Oui. Alors, lorsqu'on vit en tant qu'héritier, ben effectivement, on est libre d'aimer, de pardonner, d'agir, toujours avec la même fidélité que notre papa. Oh, sorry. Excuse-moi. Lorsqu'on vit en tant qu'héritier.
And as we live as heirs.
Héritier de la grâce, hein.
And heirs of grace.
Nous sommes libres d'aimer, de pardonner et d'agir.
We're free to, aimer. To live, to love and act.
Avec la même fidélité que notre papa.
With the same faithfulness as our father.
Et au lieu de vivre dans la peur de l'échec ou le besoin constant, la peur de l'échec.
Instead of living with this constant fear of failure.
Voilà, et le besoin constant de faire plus pour essayer de nous faire remarquer de Dieu. Dieu vous a déjà remarqué.
With this constant need to be have God notice us. Because of all of our constant striving, know that God has already seen you.
Puisqu'il vous a choisi.
He chose you.
Il vous a déjà remarqué.
His gaze is upon you.
Avant même qu'on ait été conçu. Hein.
Before we were even born.
Donc on peut grandir avec cette assurance de son amour qui est, quoi qu'il arrive, fidèle.
And so we can be assured of his faithful love.
En sachant qu'on est choisi, accepté et aimé.
Knowing that we're chosen, we're accepted, we're loved.
Et en sécurité dans les bras d'un Père qui nous protège.
In security in the arms of our Father who protects us.
Alors, en conclusion, finalement, de tout ça.
And so, in conclusion.
Finalement, ce passage dans Galates nous révèle encore une fois l'amour fidèle de Dieu.
This passage reveals to us the faithful love of God.
On voyait que avant Jésus, la loi agissait comme un tuteur qui nous guidait.
Before Jesus, the law showed us a tutor that guided us.
Parce qu'il y a un temps pour chaque chose, un temps pour chaque chose.
Because there's a time for all things.
Si on est honnête.
And if we're honest.
Même nous en tant que parents de famille.
Even we as parents in our families,
ne sommes-nous pas aussi des tuteurs le temps que nos enfants grandissent et puissent eux-mêmes se connecter à Dieu en direct?
Are we not tutors to our children and and then they connect to God?
C'est pas un mauvais rôle hein, d'être tuteur.
It's not a bad role to be a tutor.
Et on voit bien que cette posture finalement de la loi ben, ne pouvait pas nous transformer et heureusement que Jésus en fait a fait tout ce qu'il a fait. Pour qu'on soit changé.
And Jesus did all that he did so that we could be changed.
Merci à Dieu d'avoir donné cette loi pour nous montrer qu'on était limité.
And so we thank God for giving us this law to show us how limited we are.
Et merci à Dieu de nous regarder au cœur.
And I thank God to that he sees our hearts.
Et merci pour son amour inconditionnel.
And for his unconditional love.
Alors, je vais juste conclure par une dernière citation de Martin Lloyd-Jones.
And so I'd like to conclude with a quote from Dr. Martin Lloyd-Jones.
Qui dit, l'adoption par Dieu signifie que nous avons une sécurité éternelle.
Which is adoption by God signifies that we have eternal security.
Cet amour est inébranlable car il ne repose pas sur ce que nous faisons ou ne faisons pas.
And what's inébranlable?
Uncheckable?
Yeah. Okay. So this love is uncheckable because it does not rest upon what we can or cannot do.
Mais uniquement sur la fidélité de Dieu.
But uniquely upon the faithfulness of God.
Rien ne peut altérer cet amour.
Nothing can change this love.
Et c'est une grâce pure qui nous invite à vivre pleinement notre identité d'enfant de Dieu.
It's pure grace. It's a pure grace that invites us to live fully, to fully live our identity as children of God.
Et donc pour terminer, donc c'est vrai que c'est pas par crainte ou par effort qu'on s'approche de Dieu.
And so it's not by fear or by effort that we draw near to God.
Mais avec l'assurance d'un amour qui ne va jamais changer.
But by full assurance of love that we can be changed.
Prions.